jeune connard, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
Libradio, www.libradio.org.
Voilà, alors au travers de ces 6 collections de littérature jeunesse, Champ d'Ortie met en scène des dissidents de tout poil qui grattent, dérangent et sèment à tout vent les germes de la rébellion et d'utopie future. Au plaisir de la lecture s'ajoute le plaisir des images. Le regard d'un jeune artiste vient renforcer les mots de l'auteur. Alors Neil, bienvenue à toi.
Merci William.
Je cite la phrase qui est en tête d'affiche, en tête de gondole du site Champ d'Ortie. On va d'ailleurs immédiatement donner l'adresse champdortie.free.fr. Alors qu'est-ce donc que Champ d'Ortie ? Première question. Et dans la foulée, voudrais-tu te présenter à l'aune de Champ d'Ortie ? Qui fais-tu ? Quel est ton rôle à l'intérieur de Champ d'Ortie ?
Alors, Champ d'Ortie est une maison d'édition jeunesse, mais qui a aussi créé des livres adultes qui existent depuis maintenant 10, 11 ans, voire, et qui a été créé par Béatrice et Thierry à l'origine. Et après, Béatrice a commencé à piloter toute seule la maison d'édition. Et on s'est rendu compte avec Fred Maurice, qui est aussi un de nos auteurs, et le dernier roman jeunesse qui est sorti, Les sources d'or de la cité fleurie, excusez-moi, je regarde l'écran, pourtant je le connais par cœur. Et voilà. Et donc, avec Fred Maurice, on est un peu le trio, et Béatrice va nous occuper de la maison d'édition. Et en fait, Béa a eu quelques petits soucis de santé, pour dire les choses. Et elle pilotait un peu toute seule, et c'est 4 livres qui sortent au moins par an. Et on s'est dit, moi je lui ai dit, écoute, Béa, tu peux pas faire ça toute seule, c'est génial, mais c'est trop physique, et en plus elle bosse à côté, etc. Donc. Elle est prof au collège d'anglais. Mmh. Et moi je lui ai dit, je suis au chômage, je peux faire les salons si tu veux, voilà, ça me ferait vachement plaisir. J'ai un ouvrage qui devait être, c'est comme ça que j'ai découvert les éditions Champ d'Ortie, qui devait sortir quelques mois plus tard, qui sont les pirates, pour ne pas le citer, on y viendra. Oui, mais c'est pas le but, c'est pas même.
Non, bien sûr.
Ça ferait un peu pseudo-art. Bon livre.
Je te poserai la question incidemment,
avec plaisir, par hasard. Ah tiens, mais dis donc, comme c'est que le hasard a bien fait. Et donc en fait, j'étais un peu dans l'attente de sortir de ce livre, et puis surtout, je trouvais ça passionnant, les maisons d'édition et l'univers du livre, et d'autant plus que Champ d'Ortie est une sociale, une remise en question de l'ordre établi constamment, en fait. C'est en filigrane à travers tous les ouvrages, que ce soit les albums jeunesse ou les romans jeunesse. Donc même si on n'est pas, le but c'est pas des brûlots à nard, le but c'est pas de dire on tient la bonne parole, on détient la bonne parole, on est une ligne dure, rigide, etc. Mais plutôt de dire un autre monde est envisageable, voilà d'autres angles de vue. Et ce qui est intéressant dans les albums jeunesse, c'est qu'on peut distiller ça d'une autre manière, et puis ça peut permettre d'ouvrir d'autres dialogues, des échanges autant entre adultes qu'enfants et adultes, en fait. Et donc, fort de toutes ces inspirations-là, j'ai commencé à faire les salons pour soulager Béatrice, qui, elle, s'occupe d'une très grosse partie de tout ce qui concerne l'administratif de la structure. Et Fred Maurice, et avec tous les trois, on regarde les prochains livres, on fait partie de la commission de lecture, on va dire, et qui va s'ouvrir petit à petit à d'autres, et, parce qu'on est entouré aussi par des bénévoles. Mmh. Et voilà comment je me suis retrouvé dans cette aventure personnellement, et comment depuis quelques années, maintenant ça doit faire 5 ans, je fais partie de cette belle aventure, car elle est horizontale, autogérée, et on n'a pas de salariés, on est tous, la structure est à but non lucratif, et l'argent sert essentiellement qui rentre quand vous achetez des livres, que ce soit sur le salon aujourd'hui, demain ou après-demain. L'argent servira essentiellement à pouvoir rembourser les droits d'auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, et nous permettre de publier d'autres livres. C'est surtout ça. Voilà.
On parlait de livres jeunesse. Qu'est-ce que ça contient comme notion, le livre jeunesse, pour toi ? Ce que je veux dire par là, c'est que y a-t-il des tranches d'âge auxquelles on s'attelle en particulier, quelles sont les singularités de ce type de littérature ?
C'est une très bonne question. Alors, chez Chandorty, on a plusieurs tranches d'âge. Parce qu'en fait, si les tranches d'âge ne sont pas claires, en fait, les libraires ne captent pas vraiment pour à qui on s'adresse et les parents sont un peu frileux aussi.
C'est ça.
Voilà, il y a des sujets qu'on peut aborder tous les sujets. Et après, il y a manière et manière de faire. La littérature jeunesse se veut très... Enfin, surtout les albums jeunesse pour les petits. Nous, on va de 3 jusqu'à 7 ans pour les albums. On va de 8 à 11 pour les romans. Et après, on a du ado, pré-ado, jeune adulte et adulte. Donc voilà, on a plusieurs tranches d'âge. L'idée, c'est que plus tu t'adresses aux plus jeunes, plus les livres doivent être aiguisés. C'est-à-dire plus... moins ça doit partir dans toutes les directions et plus les mots, chaque mot compte et chaque phrase doit être pesée. C'est de la dentelle. Pourquoi? Parce qu'en fait très vite on peut s'égarer, très vite ça peut être surinterprété, très vite l'enfant ne peut ne pas comprendre le fond de ce qu'on veut dire en fait.
Ou mal l'interpréter.
Et tant l'enfant que l'adulte qui va lui lire, ou parfois ça va être un peu soit austère, soit un peu trop sobre, soit ça manquera de fond. Enfin, nous, on n'est pas dans le mièvre. C'est-à-dire qu'il y a des mamans ours et bébés ours qui se promènent dans la forêt, et bébés ours qui voient un papillon et oh là là, qui suit le papillon, oh, il rencontre Jeannot Lapin, oh là là. Et comment faire pour retrouver maman ours? C'est pas des trucs que nous on fait. Il y a des maisons d'édition qui le font très bien. Et c'est bien que ça soit diversifié. Mais nous, on est sur d'autres types d'histoires avec d'autres envies de créer autre chose en fait.
D'accord. Je te remercie en tout cas pour cette réponse.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, très complètement. Y a-t-il des thèmes que l'on s'interdit à tout prix ou des thèmes justement que l'on promeut à tout prix lorsque l'on pratique ce type de littérature?
Alors, c'est encore une fois, tu poses des questions pertinentes. Je te remercie. Alors, comme je te disais, alors en fait, nous, on fait avec les ouvrages qui viennent à nous. C'est-à-dire que s'il y a si par exemple, toi, tu as écrit un album et tu nous l'envoies et que ça parle, des transgenres ou du viol ou la défense de la cause animale, tout va dépendre de la forme, en fait. C'est-à-dire que si tu es dans un truc hyper trash, ça va pas correspondre à ce qu'on fait, nous. Parce que ça s'adresse à la jeunesse. Si toi tu dis ouais mais bon les jeunes faut pas les préserver etc, oui peut-être, mais alors tu vas taper à une autre porte, parce que nous il faut aussi que ça soit respectueux de l'enfant. Le but c'est pas de mettre un truc hyper violent en disant regardez le monde comme il est. Il y a certainement des structures qui le font, mais nous c'est pas notre objectif. Alors, je ne sais pas si je m'égare pas un peu dans mes réponses.
Non, c'est très bien comme ça.
Excuse-moi. Pour recentrer, en fait, potentiellement, on peut parler de tous les sujets. C'est tout simplement qu'on fait aussi avec ce qui vient à nous et de nos sources, nos inspirations. Et en fait, ce n'est pas toujours évident de trouver des auteurs ou autrices qui ont des textes qui remettent un peu en question l'ordre établi, en fait. Entre guillemets, quand je dis ordre établi. Ça ne veut pas dire qu'on détient la bonne parole, ça veut simplement dire que souvent on rentre dans des cases où les trois quarts de ce qu'ils font, ça va être du joli ou du gentil.
Ouais. Oui, parce que je me disais, le questionnement qui est un petit peu à la base de toutes les remises en question, enfin, évidemment, comment le faire surgir chez l'enfant qui est encore un esprit en devenir et avec lequel on s'exprime d'une manière qui est peut-être pas la même, c'est pas la même rationalité qu'un esprit critique formé. Déjà, alors je me dis justement quels sont les leviers sur lesquels eh bien, on intervient. Alors par exemple, y a-t-il, eh bien, c'est là on pourrait parler peut-être des pirates, hein, qui est une figure justement assez intéressante.
Comment il l'amène trop bien.
Ah, tu vois,
bravo,
non,
bravo.
Mais, non mais c'est véritablement une image.
Oui, tiens, je vais parler parce que je pourrais parler de tous les autres albums parce qu'ils sont tous très beaux et ils ont tous plein de choses à apporter. Et puis je pourrais le faire en quelques phrases parce que c'est ce que je fais sur les stands. Et puis moi je viens pas pour vendre mon bouquin. Mon objectif, comme tu l'as compris, vous le comprenez certainement en nous écoutant, c'est de semer des graines et de permettre à l'enfant de. Alors quand je dis que l'enfant remette le monde en perspective ou en question, c'est plus que grâce à son regard, il puisse lui poser des questions à l'adulte pour qu'ensemble ils puissent voir le monde d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière un peu plus anarchiste, c'est-à-dire faire sauter les gonds de la hiérarchie sociale ou du patriarcat ou de tout ce qui concerne ces sortes de violences omniprésentes, quotidiennes et élaborées collectivement, c'est-à-dire d'apporter d'autres angles de vue pour créer un et pour les créer quotidiennement, en fait, tout simplement, comme voilà. Donc par rapport à qui sont les pirates, l'histoire, c'est une maman qui vit seule avec sa fille, ou l'inverse, une fille qui vit seule avec sa maman. La petite fille est en colère parce que sa maman travaille tout le temps, et ça l'énerve un peu. Et quand elle demande autour d'elle pourquoi maman travaille tout le temps, tout le monde lui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc déjà voilà. Et la maman aime beaucoup partager des instants avec sa fille. Elle lui raconte des histoires avant de se coucher, en fait. Et un jour, elle lui dit: est-ce que tu connais la véritable histoire des pirates? Les pirates, c'est des méchants, les pirates. Et la maman dit: non, c'est tout le contraire. Et là, elle lui raconte une autre version plus libertaire des pirates qui a aussi existé. Mmh. Qui s'entraidaient, qui étaient sous le joug de capitaines qui étaient des tyrans, que c'était un peu les premiers ouvriers internationaux, en fait, parce qu'ils étaient sur des bateaux qui étaient un peu des usines sur pattes, sur flot, et à la merci de. Et quand ils en avaient marre de souffrir et de peu dormir, de manger très mal, d'avoir des vies assez courtes, quand ils voulaient récupérer leur liberté, parce qu'ils étaient censés être payés, mais jamais réellement. Ils récupéraient le pouvoir et ils devenaient des hommes et des femmes libres, et c'est ce qu'on a appelé les pirates, hommes ou femmes, ou piratesses si on veut. Et ça inspire beaucoup la petite fille qui se dit qu'elle aimerait beaucoup que sa maman ait un travail pirate.
Excellent.
Ça inspire aussi notre illustrateur, enfin l'illustrateur Julien Mélic, que je salue, et je salue toute l'équipe de Champs d'Ortie et amis en même temps. Ça inspire Julien Mélic, qui nous a fait des très belles gravures sur bois, parce que c'est de la gravure sur bois, les illustrations. Et ça va inspirer surtout la maman, qui à la fin de l'ouvrage, mais il faudra le découvrir, va changer de mode de vie. Voilà.
D'accord.
Donc ce qu'on peut présenter comme angle de vue chez Champs d'Ortie, en fait.
Ok. On va revenir à Champs d'Ortie, mais j'avais encore juste une question concernant ton ouvrage. Comment est-ce que quel angle de vue choisis-tu et pourquoi celui-là? Je m'explique. Est-ce que tu prends la place d'un pirate? Est-ce que tu te mets à la place de l'enfant qui va découvrir le pirate? Enfin, tu vois ce que je veux dire, quelle perspective tu choisis et pourquoi celle-là et pas une autre?
Alors, les pirates sont importants parce qu'ils ont été une source d'inspiration assez forte après avoir lu le livre, comme beaucoup de gens qui sont pirates de tous les pays. On salue Libertalia qui l'a publié, de Marcus Rediker. Et après avoir lu ce bouquin, je me suis dit waouh, mais c'est super fort, j'en ai lu d'autres de lui, et puis quelques autres d'autres, et je me répète, et puis en fait, c'était comment c'est arrivé. Je voulais offrir des livres à des amis, qui, à deux couples d'amis qui ont des enfants, tu vois. Donc je vais dans une librairie jeunesse, j'habite à Paris, oui, pardon, et donc je vais dans une librairie jeunesse et je leur dis voilà, j'aimerais bien un livre qui soit pas sexiste. À l'époque, j'y connaissais rien, et puis et maintenant j'y connais forcément un peu plus. Et puis la nana elle me propose presque l'inverse de ce que je lui demande. La première image, on voit maman qui passe le ménage, on voit à peine le corps de maman. La dernière image, elle fait la vaisselle ou un truc dans le genre, on voit à peine le corps de maman. Là, je me dis oula, attends, mais c'est pas du tout ce que je vois, ce que je veux et ce que je veux offrir à mes potes. Donc en fait, ça m'a inspiré pour écrire cette histoire. Et en fait, qui sont les pirates, c'est aussi un hommage à ma mère qui a été seule avec ma sœur pendant pas mal d'années. D'accord. Et aux femmes qui m'entourent, qui ont pu vivre ça. Voilà. Donc il y a un hommage, un gros clin d'œil à ma famille proche, à ma mère notamment, dans le personnage principal, le personnage de la mère. Mais c'est aussi que ça me semblait plus intéressant de voir ça sous l'angle de l'enfant, de la petite fille, parce que tu te mets à parler un peu une langue qui est celle que tu as conservée, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. On a toujours ce côté un peu prépubère, on va dire, ou qui est toujours plastique, qui s'adapte constamment. Donc donc on a toujours gardé cette part d'enfance, en fait. Et là, je renvoie un autre ouvrage qui est plein d'autres ouvrages. Il faut creuser. Je ne sais plus comment ça me revient dans la tête. Donc j'ai préféré l'angle de vue de la petite fille, de la vision de la petite fille, parce que je le trouve beaucoup plus poétique, et parce qu'en fait, avec des phrases très simples, ça remet en question, en perspective, le monde dans lequel on est, tout simplement. Mmh. C'est un genre, mais pourquoi est-ce qu'on doit travailler? Parce que c'est comme ça, mais ça ne veut rien dire. C'est pas travailler dans quel contexte, dans quoi. Et ces phrases-là peuvent, anodines, peuvent obliger le parent et l'enfant à se poser des questions, et peut à se dire, mais c'est quoi la valeur travail? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu travailles? Dans quel sens tu travailles, avec qui travailler, etc., etc., en fait.
Ok. question très triviale, hein. Où est-ce qu'on vous trouve, où est-ce qu'on trouve les éditions Champ d'Ortie?
Alors Champ d'Ortie, vous pouvez nous trouver dans toutes les librairies. Alors en Suisse française, je pense qu'on est trouvable, mais je pourrais pas vous dire. Ça va dépendre de notre super diffuseur Obo, qui est aussi au salon aujourd'hui, quoi, que vous pouvez voir. Il y a David qui est présent sur le stand. Voilà. Et donc,
mais a priori, vous êtes distribué en Suisse également. Vous n'êtes pas à la recherche de...
Non, normalement, on est distribué en Suisse, à ma connaissance. Après, on a notre site où on envoie partout sur la planète si besoin. Mmh. Et puis les librairies dites alternatives ou militantes aussi, qui peuvent avoir de nos ouvrages, en fait. Et les salons divers et variés.
Ouais. Sachant les valeurs que qui vous habitent, est-ce que vous êtes sollicité, par exemple, via le site, par des parents, par des écoles ou par des... Voilà, par des personnes dont un des arguments, enfin en tout cas une des valeurs est la pédagogie libre, enfin ce type de choses-là.
Alors, en fait, les libraires nous aiment, mais moyen, parce qu'on est un peu trop, axé anarchiste et libertaire.
Ouais, d'accord.
Donc en fait, ça dessert un peu le... Ça nous dessert entre guillemets, c'est-à-dire que si on était un peu plus grand public, ça pourrait fonctionner, mais comme on est un peu trop radicaux, entre gros guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais par rapport à des gens qui le sont un peu moins, on n'est pas tant sollicité que ça par les écoles ou par les groupes scolaires, mais il y a des instits, souvent sur les salons, c'est les personnes que je vais rencontrer, ce sont des instits ou des gens qui sont dans le milieu, qui vont se dire « Ouah, c'est génial, mais en fait, Champ d'Ortie, quand on regarde le stand, on a 10 albums jeunesse maintenant, mais c'est sur 10 ans. Donc en fait, on n'a pas tant d'ouvrages que ça, on n'a pas une visibilité si grande, et donc on peut nous trouver, mais on couvre pas toute la... Ah tiens, un 4 pattes qui circule. Et donc on n'est pas non plus partout sur la... On n'est pas invisible, mais on n'est pas non plus si visible.
En tout cas, on rappelle le site internet, Champ d'Ortie au pluriel, .free.fr. Ça, c'est le site internet avec toutes les indications, plein d'informations à l'intérieur. Dis-moi.
Oui, on a une page Facebook. Même si, bon, Facebook, voilà, outil.
Certes, voilà.
On n'est pas sur Insta ni sur les autres, mais déjà, voilà. Parce qu'on est tous les trois bénévoles et on a tous les trois des activités à côté en même temps, et on s'occupe d'autres structures simultanément, etc. etc. En
fait. Ok.
Excuse-moi.
Je t'en prie. Nil, avant que je te pose la question sur quelles sont les aspirations des éditions Champ d'Ortie, vers quoi pensez-vous aller à l'aune d'un 21e siècle où on sait que les librairies, que c'est un métier compliqué, que j'imagine que justement de faire de l'édition, ça doit être tout autant compliqué. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir, selon toi, si tu devais rêver, enfin, ou trouver la librairie de tes rêves, comment est-ce qu'elle serait ? Je dis ça parce que je me dis que lorsqu'on fait de la littérature jeunesse, d'une certaine manière, parmi les choses compliquées, mais j'imagine, mais moi je suis totalement profane, mais c'est de se dire je veux parler à l'enfant, mais je parle d'abord à son parent. Parce que c'est le filtre, quoi. Et est-ce qu'une librairie idéale pour toi serait une librairie où, comme une ludothèque, l'enfant déambulerait seul et pourrait de lui-même accéder au livre et choisir le livre qui lui plairait, ou là je vais un petit peu les nuages.
En fait, c'est un peu entre le livre et la bibliothèque, la librairie et la bibliothèque, ce dont tu parles. En fait, je sais pas s'il y a une librairie idéale. Je pense que la librairie idéale, ça serait la librairie qui puisse proposer tout un éventail très divers et varié. Mais en fait, il y a tellement d'ouvrages qui sortent qu'en fait, la librairie idéale, s'il devait y en avoir une, j'aime pas trop le terme idéal parce que par essence ça n'existe pas, mais ça va dépendre plutôt de l'atmosphère, c'est-à-dire quelque chose qui soit proche de, pas forcément de ce qu'on défend et de ce qu'on trouve dans le salon, parce que là, pour éviter l'entre-soi, mais quelque chose qui soit justement ouvert vers un devenir, et qui soit pas fermé, en fait, parce que c'est toujours c'est entre les trucs très branchés, très léchés, où ça va être très joli, mais derrière ça va être creux et ça va être conventionnel, en fait. C'est du sans être réactionnaire, ça va être très conventionnel, on remue pas la merde, on la remue gentiment, faire attention, faut bien mettre les ordures au bon endroit, mais on remettra pas en question l'ordre établi, parce que ça voudrait dire changer de classe sociale nous-mêmes, peut-être. Ce qui est compliqué, c'est la librairie idéale.
Peut-être qu'il n'y en a-t-il pas.
Je pense que chaque librairie est une librairie idéale. Après, ça va dépendre de l'engagement. C'est-à-dire que c'est compliqué. Parce que là, tu vois, sur le prix d'un livre, le diffuseur, quand on passe par le diffuseur, le libraire et le distributeur étant celui qui ramène les livres, toutes ces personnes ne sont pas des intermédiaires, ce sont des rouages nécessaires, parce que le libraire, c'est celui qui propose les livres, le diffuseur, c'est celui qui fait la communication sur les ouvrages au libraire, et le distributeur, c'est celui qui amène les ouvrages au libraire ensuite, en fait. Et donc, en fait, c'est très compliqué que tous ces rouages puissent vivre. Mmh. Et c'est très important que tous puissent vivre. Après, il ne faut pas non plus... l'idéal, ce serait que tout le monde, vraiment tout le monde, c'est-à-dire les auteurs comme les illustrateurs, mais il y a tellement de gens qui veulent écrire ou qui veulent dessiner et vivent de leurs arts qu'il faut s'accrocher. Hein. Il faut déjà, la plupart sont soit un compagnon ou une compagne qui travaille à côté, soit ils font ça d'une autre manière. C'est très difficile de, maintenant, je pense, de trouver vraiment des catégories populaires, comme on dit, des classes populaires c'est-à-dire vraiment des ouvriers, des ouvrières qui viennent en librairie ou qui font même partie de cet univers, en fait, de l'univers du livre d'une manière globale, même si on parle de littérature prolétarienne. Est-ce qu'il y a vraiment des prolétaires, tu vois? Enfin, là, je sais qu'il y en a un là-haut qui vient d'Allemagne, Marcel, qui est jardinier, tu vois. Donc, je sais. Et moi-même, je suis vendeur dans une pâtisserie, tu vois, à Paris. Donc, bon, voilà.
Tout à l'heure, je voulais revenir à cette question-là. Tout à l'heure, je te parlais de sujets tabous ou pas. Y a-t-il une radicalité vers laquelle on peut pas ou que l'on indépassable concernant justement la littérature jeunesse? Ou est-ce que justement, à l'inverse, eh bien... avec les enfants, on peut parler vraiment de choses, on peut aller loin, plus qu'on ne le pense. Ou est-ce qu'il faut faire quand même attention, il y a une idée de sanctuariser un petit peu, et puis...
Non, je pense qu'on peut réellement parler de tout, mais encore une fois, c'est comme de l'heure de tout, mais ça dépend avec qui. C'est-à-dire que tu peux parler de tout, mais il ne faut pas oublier à qui tu t'adresses, et il ne faut pas oublier de mettre les formes aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qu'on fait à Champ d'Ortie, c'est qu'on n'oublie pas la poésie, ce qu'on appelle la magie, c'est-à-dire que ce côté découverte et cette naïveté propre à l'enfance, mais qui n'est pas une naïveté naïve, c'est-à-dire que c'est pas une naïveté, c'est une innocence qui n'est pas dénuée de réflexion et de prise sur le monde, d'emprise sur le monde, en fait. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'enfant, par exemple, concrètement, on a un ouvrage sur la table qui s'appelle Pas une. Pourquoi pas une? C'est l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre son grand-père. Et il entend les parents ou les adultes qui s'occupent de lui dire « Oh là là, faut pas trop pleurer parce que sinon on va se noyer dans nos larmes, etc. » Ça bloque l'enfant qui du coup ne pleure pas. Et il dort même avec un tuba par peur de pleurer dans son sommeil pour pas se noyer dans son sommeil. Et ça fait surflipper les parents qui l'envoient parce qu'ils se disent qu'il est malade, voir des psys, etc., etc. Alors qu'en fait, dès l'instant où ils comprennent, eux, que c'est à eux de pleurer et de lâcher quelque chose avec l'enfant, ça désamorce plein de choses. Ouais. Donc voilà un des sujets, par exemple, alors c'est pas du tout mièvre. Contrairement au sujet, c'est pas larmoyant. Et les dessins, c'est très poétique et subtil. Ce qu'on essaie de faire, en toute modestie, et quand on y arrive, c'est de pouvoir s'adresser justement autant à l'adulte, à l'enfant qui est dans l'adulte, qui est encore présent, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a nos cerveaux plastiques. Je crois que c'est l'entraide, non pas, il faut lire celui de Kropotkin, mais celui de Pascal Savigné, je crois, que je suis en train de lire et que je conseille de lire, parce qu'il traite de ce sujet-là, de la plasticité du cerveau, en fait, et de l'entraide. Voilà, et donc... comme tu vois, on peut parler de tous les sujets. Alors, on n'a pas de sujet qui parle du viol, du véganisme ou d'autres. On a par exemple, c'est quoi ce travail? C'est pas un album jeunesse, mais c'est un roman jeunesse. C'est écrit par. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Celui qui a écrit Tu ton patron et Putain d'usine.
Ah.
Il avait des chroniques dans CQFD qu'il faut lire aussi. Ça va me revenir aussi, c'est pas grave. Bah, vous regarderez sur le site, vous creuserez sur Internet et vous trouverez chacun de votre côté. Et là, cette petite fille vit à côté d'une usine Céveso. Son père travaille dans l'usine Céveso. Qu'est-ce que c'est de vivre à côté? Qu'est-ce que c'est quand son papa travaille là-dedans? Et qu'est-ce que c'est quand il y a des luttes sociales? Toi, avec ton regard d'enfant, comment est-ce que tu vis ça, en fait? Et là, c'est sous le regard, encore une fois, de la petite fille, donc la fille c'est Jean-Pierre Levaret.
Voilà. Eh oui,
voilà. Ça m'est revenu. Jean-Pierre Levaret, voilà. Et donc, voilà, par exemple, un autre sujet. Donc, on peut aborder beaucoup de sujets. Tout dépend de... Il ne faut pas oublier... qu'on n'est pas là pour sermonner, qu'on détient pas, c'est pas parce qu'on a du vécu qu'on détient de vérité. C'est dur de détenir une vérité de toute façon. C'est toujours des vérités subjectives et collectives, intercollectives. C'est tellement vaste les vérités que qui on est pour dire qu'on détient la bonne. Voilà, et puis on voilà, on serait pas réellement libertaire si on détenait une vérité.
Absolument. Écoute, on arrive doucement au terme de l'entretien. J'aurais encore voulu t'interroger sur, et ça c'est une question un petit peu avec deux volets. Comment dire, quelles sont les aspirations au sein de Chandorty? Qu'est-ce qui attend dans ces prochaines années le livre, la littérature jeunesse? Et cette question inclut le fait de dire, est-ce que voilà, il y a de plus en plus de liseuses, est-ce que les plus jeunes vont aussi aller vers le e-booking, ou est-ce que pour vous c'est vraiment important d'avoir quand même un objet livre avec justement des illustrations qui sont le fait d'illustrateurs, d'artistes? Alors voilà, comment tu vois l'avenir s'approcher et comment vous voyez-vous à l'intérêt de cet avenir-là?
Alors, c'est une bonne question, mais en fait on a tellement la tête dans le guidon que je pourrais tirer le fil et puis vendre du rêve. On vend du rêve aussi, mais en disant qu'on y a beaucoup réfléchi, alors qu'en fait c'est pas une vérité, parce qu'en fait on a tellement la tête dans le guidon pour sortir le prochain ouvrage et travailler sur le suivant derrière, que parce que c'est tout un travail de la mise en page, recalibrer ci, recalibrer ça, les corrections, le travail avec l'auteur, illustrateur, l'autrice, etc. Sur la durée, être au taquet pour que le diffuseur il ait tout en temps et en heure, etc., etc. Enfin, que la perspective de ce qui va venir, c'est quelque chose qui, non pas qui nous échappe un peu, mais qui n'est pas sur la table pour l'instant. C'est pas le sujet principal.
Ouais, ouais.
Mais pour répondre à ta question, on a toujours un livre, un autre livre à publier. Là, on en a après. Là, notre tout dernier album jeunesse qui est sorti récemment, c'est l'orchestre de la favela, qui est une très belle histoire qui se passe justement dans un favela à Brasilia, voilà. Et je ne vais pas raconter l'histoire maintenant, mais je vous encourage à regarder les sources d'Or de la Cité Fleurie et puis le livre de... Et si vous ne trouvez pas sur Chandorty, vous pouvez regarder aussi sur Obo et puis les librairies militantes, voilà.
D'accord.
En ce qui concerne l'e-book... par rapport à Chandorty, ça demande des gens. Comme on n'a pas de salariés, ça demande des gens qui ont les compétences.
Ouais.
Ça demande à travailler dessus. Et moi, je ne suis pas contre utiliser tous les médiums et tous les outils à notre portée, pour pas que ça soit que les grosses boîtes qui les utilisent. Ils existent maintenant. C'est pas une fin en soi. Je pense que les parents qui ont eu des enfants, comme eux-mêmes ont grandi souvent, on transmet. Alors on a toujours l'outil, le gadget, le téléphone, la tablette. Moi, j'utilise pas trop ces trucs-là, mais je ne suis pas contre. Parce qu'ils existent, même si c'est loin d'être écolo, mais les livres non plus ne sont pas forcément écolo. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les médiums autant que faire se peut. Mmh. C'est-à-dire que chez Chandorty, on n'a pas forcément les fonds, ni les fonds humains, ni les moyens pour pouvoir orchestrer ça, en fait, pour l'instant. Mais peut-être à l'avenir, sachant que c'est pas sur la table pour l'instant. Mais ça serait très intéressant qu'on s'y mette, parce que ça ferait une structure entre guillemets militante, enfin, si on en est une, à notre humble niveau, de pouvoir être utilisé, de pouvoir utiliser ce médium aussi et pas juste le laisser à d'autres, en fait. Voilà.
D'accord.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Tout à fait, très bien, très clairement. Je te remercie beaucoup, Neil. Alors on le rappelle, Neil, tu es venu nous parler des éditions Chandorty. Le site internet, c'est le suivant: www.chandorty.free.fr. Pour en terminer, y a-t-il une question à laquelle tu aurais souhaité répondre que je ne t'ai point posée?
Waouh!
Ou est-ce que... Après, tu sais que nous, on fait aussi de la radio via Framatalk, hein, à distance, bien entendu. Donc, il est très possible de remettre ça. Bon, déjà, on va être là les 3 jours. Hein,
oui, oui.
Donc, on va se recroiser. Mais pourquoi pas, par la suite, lors de sorties de certains livres, nous serions ravis
Plaisir. Avec plaisir. De toute façon, on est ouvert à toutes les rencontres. Super. Et puis, ça nous arrive régulièrement d'aller sur Radio Libertaire. Et puis même on a même une émission sur France Culture qui nous interviewe de temps en temps, enfin quand il y a des nouveaux ouvrages, mais avec plaisir pour échanger à nouveau. Une question que tu ne m'aurais pas posée, elle ne me vient pas.
Non. Bon, alors tu
mais
peux
bon,
peut-être
on mais termine. Déjà merci à toi, merci à nos techniciennes hors pair qui travaillent un peu dans l'ombre mais qui sont bien présentes. Merci à toutes les deux, merci à toi pour toutes
avec
ces
plaisir.
Questions et l'intérêt que tu portes au livre. En fait, c'est surtout ça qui est important pour moi, c'est de maintenir cet intérêt et ce questionnement et ces remises en question à travers tous les médiums possibles, en fait.
Voilà. Je te remercie beaucoup, Neil, et bonne continuation pour le salon du livre anarchiste ici à Berne. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Ciao.
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 Ciao, ciao. Au revoir.
Voilà, alors ben, nous, on va faire une petite pause musicale. Il n'y a pas de raison, on va se faire plaisir. Alors, il me semble que l'attentat littéraire a eu lieu d'ores et déjà, ou me trompais-je ? C'est en cours en ce moment, d'accord. Donc, on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est loin de nous. Il n'y a pas de direct qui serait possible avec ça. On ne peut pas tendre un micro, voilà. Alors, petite pause musicale, et puis on revient pour la suite des opérations. Nous, nous sommes au Salon du Livre. Le direct, c'est jusqu'à 21h. C'est www.libradio.org. On salue toute l'équipe de Fréquence Banane, Genève-Lausanne. Merci beaucoup, les gars, pour ces tranches d'horaire. C'est trop cool. Ciao.
Giant.